Le grand témoin. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et pour aujourd'hui, je suis dans ce studio avec le docteur Freddy Mbakata Poutou. Il est fondateur et directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADSSE en sigle. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans l'humanitaire. Et dans cette émission, il va nous dire comment il se retrouvait dans ce domaine. Docteur Freddy, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Il est le mien aussi.
Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez nous dire comment vous vous êtes retrouvé dans l'humanitaire. Vous êtes médecin des professions, vous avez travaillé à l'hôpital général des Mama Yemo. On va en parler dans cette émission. Puis, vous êtes allé aux États-Unis pour une maîtrise
en santé publique.
Mmh. Et c'est de là, vous nous avez dit que vous êtes retrouvé après cette maîtrise dans l'humanitaire.
Oui, c'est tout à fait au hasard que je me suis retrouvé dans ce domaine. Je pensais revenir au pays, c'était en 1994, il y a un grand événement qui s'était passé en Afrique, près de chez nous ici, avec le génocide rwandais qui a drainé de grandes foules de réfugiés à l'est du pays, notamment à Goma, Bukavu et Uvira.
Alors, vous nous en parlez tout à l'heure,
merci,
Dr. Freddy Mbakata. On va faire d'abord un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né dans la province de Bandundu.
Oui, je suis né dans une mission catholique appelée Mukila. C'est près de Kenge, la capitale du district du Kwango. C'est à près de 250 km de Kinshasa.
Un certain 21 septembre 1951.
Exactement, madame. Oui.
Et c'est là que vous avez passé votre enfance?
L'enfance, je l'ai passée là-bas. Et puis, en 1960, comme mon père était avant cette date enseignant de l'école primaire, en 60, il a été nommé directeur d'école primaire. C'est parmi les tout premiers qui ont remplacé les Européens à Kengede. C'est là où donc j'ai fait mes études primaires.
Pour les études secondaires, vous êtes allé au collège Saint-Paul?
Le collège Saint-Paul de Bandundu. Bandundu, Banningville à l'époque, c'est la capitale de la province de Bandundu. J'ai fait la section maths physique.
Section maths physique pour faire la médecine à l'université après.
Oui, après j'ai dû faire une année de préparatoire en Bandaka avant d'entrer à la faculté de médecine. Oui. J'y ai fait toutes les études de médecine là-bas, mais pour la dernière année, à l'époque, on faisait les stages de dernière année dans les trois cliniques universitaires, soit aux cliniques universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Kisangani. Et moi, j'avais été envoyé aux cliniques universitaires de Kisangani. C'est là où j'obtiendrai mon diplôme de docteur en médecine, chirurgie accouchement. En 1979.
Alors docteur, dites-nous, quel est le souvenir qui vous a marqué ou le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir que je dois dire, c'est la mort de ma mère. J'ai perdu ma mère très tôt.
C'est un mauvais souvenir?
Oui, c'est celui qui m'a beaucoup marqué, qui a transformé toute ma vie. C'était quand j'étais en cinquième année primaire. Si donc, à partir de là, j'ai pris conscience que je devrais travailler fort dans la vie. Parce que je me suis dit, si c'était mon père qui venait à mourir, qu'est-ce que ma pauvre mère allait faire de moi? Et j'ai vu que j'avais la grâce de Dieu parce que c'est la maman qui était morte, et le papa qui travaillait pouvait permettre à nous faire étudier. Donc j'ai compris très tôt dans la vie qu'il fallait que je puisse travailler dur et dur pour réussir. Donc c'est l'un des plus grands souvenirs, peut-être mauvais, mais qui a marqué toute ma vie.
Alors vous avez travaillé dur pour réussir, c'est le cas aujourd'hui. On peut dire que vous avez réussi dans la vie?
Je dois le dire avec la grâce de l'Éternel, je ne me plains de rien, oui.
Docteur Freddy Mbakata, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est la trahison. Vous savez, madame, l'être humain a des qualités, il a des défauts. Mais le fait de trahir un ami ou de ne pas être reconnaissant aux bienfaits qu'on vous a fait, cela me marque beaucoup et je n'aime pas.
Marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, père de 4 enfants.
Alors, docteur Freddy Mbakata, après avoir obtenu votre diplôme en médecine à l'université de l'UNASA, vous êtes parti aux États-Unis pour une maîtrise en santé publique.
Ah, oui, oui. Mais j'ai dû travailler d'abord pendant de 79 jusqu'en 1991 à l'hôpital Mamayemo, à l'époque où l'hôpital général de référence de Kinshasa, spécialement dans les départements de gynéco-obstétrique.
Et après, vous êtes
rentré. Après, j'ai obtenu une bourse d'études de l'ISAID, une bourse d'études de l'ISAID pour aller faire une spécialisation en santé publique, spécialement dans les domaines de la santé de la mère et de l'enfant.
Vous avez passé 3 ans.
Oui, 3 ans. 3 ans aux États-Unis, oui.
Et c'est à partir des États-Unis que vous vous êtes retrouvé par hasard, comme par hasard, dans l'humanitaire.
Exactement. Comme je vous ai dit, il y a eu cet événement en 1994, quand j'ai terminé le génocide rwandais, avec tous les réfugiés qui se sont déferlés sur l'est de notre pays. Les images qui ont sillonné le monde entier, les télévisions du monde entier, à l'université où on était, bon, les étudiants américains ont voulu savoir pourquoi en plein 20e siècle, les gens pouvaient se tuer avec des armes blanches. Alors, nous étions à l'époque 4 étudiants africains. L'université a organisé une très grande conférence pour expliquer un peu aux étudiants américains les origines de ce génocide. Et comme de ces 4 étudiants africains, j'étais celui dont le pays était voisin du Rwanda, m'a choisi moi. Bon, j'ai donné les explications et je ne savais pas. Dans la salle, il y avait des recruteurs d'une de grandes ONG américaines, American Refugee Committee.
Alors, quand vous dites que vous avez donné des explications, c'était par rapport à ce génocide-là?
Oui. Pourquoi?
Est-ce que vous connaissiez un peu l'origine du génocide pour qu'on...
Je ne connaissais pas les origines de ces génocides parce que je n'ai pas pris part à la préparation de ces scandales. Mais ce que je savais qu'il y avait des rivalités au Rwanda, au Burundi, entre les Tutsis et les Hutus. J'ai pu dire que c'est peut-être suite à la politique coloniale, parce que les colonisateurs belges vivent ce système-là chez eux, les Ouanda et les Flamands qui s'opposent tout le temps dans la vie politique. Et ils ont colonisé nos 3 pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo, sur cette base. Dans les 2 autres pays, cette politique de diviser pour mieux régner a réussi parce qu'il n'y avait que 2, pratiquement 2 tribus qui se regardaient en face. Mais chez nous, ça n'a pas pu réussir parce que nous avons plus de 250 tribus. Ça, c'était la première raison que j'ai dû donner. La seconde, c'est un problème d'espace. Le Rwanda, c'est l'un des pays africains qui a une très, très grande densité. Je crois plus de 250 personnes au kilomètre carré et il y a très peu d'espace. Donc, si c'est les Hutus qui sont au pouvoir, ils font tout pour chasser les Tutsis, qu'ils soient à l'extérieur. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas que les autres rentrent et vice-versa. Voilà l'une des secondes raisons que j'ai dû donner.
Et après votre exposition, on vous a demandé si vous pouviez aller travailler comme humanitaire.
Je ne savais pas que dans la salle, il y avait des recruteurs de American Refugee Committee ONG. Ils sont venus me voir que nous avons été impressionnés par vos explications. Puisqu'il s'agit de réfugiés rwandais pour lesquels vous avez une certaine connaissance, est-ce que vous pouvez travailler avec nous au Congo, à Goma? Bon, avant que j'aille aux États-Unis, je n'avais jamais été à Goma, mais j'ai dit oui. Je leur ai dit que moi, j'ai terminé dans 2 mois. Ils m'ont dit non, on échange de contacts. Quand vous terminez, on va vous contacter. Vous pouvez travailler avec nous. Bon, quand j'ai fini, je ne me suis plus souvenu de cela. Je suis venu à Los Angeles chez mon petit frère où j'ai préparé le retour. À 2 jours de mon retour, ils m'ont appelé. J'ai passé l'interview au téléphone et j'ai été engagé comme coordinateur médical de l'ONG American Refugee Committee à Goma, spécialement dans les camps de Mugunga.
Et donc, des États-Unis, vous êtes revenu au pays directement à Goma?
Je suis revenu ici à Kinshasa, je n'ai fait que 3 jours. Après avoir laissé ma femme et mes enfants, je n'ai fait que 3 jours. Je suis allé occuper mon poste à Goma. On m'avait donné un statut d'expatrié. J'étais très, très, très bien payé. C'est pour la première fois qu'on me proposait un salaire pareil dans ma vie. Je suis allé et je vivais avec les Américains parce que j'avais le statut d'expatrié. Il était convenu qu'après mon travail, ils devraient me retourner aux États-Unis. Bon, ben, comme j'étais dans mon pays, je n'ai plus voulu rentrer. J'ai découvert un nouveau domaine. Plutôt que la médecine clinique que je faisais à l'hôpital général de Kinshasa, ça c'était autre chose. Je suis tombé amoureux de l'humanité, si vous voulez. J'ai travaillé une année avec cette ONG, mais comme j'avais le statut d'expatrié, ils ne voulaient pas que ma famille vienne me rejoindre. J'avais laissé ma famille à Kinshasa. On s'est séparés et j'ai rejoint une jeune ONG qui naissait, EIB, équipe d'urgence de la biodiversité, au niveau d'IACER, on m'a maintenu...
À Goma toujours.
À Goma toujours. Au niveau d'IACER, on a maintenu mon statut d'expatrié et j'ai toujours été payé comme expatrié, bien que dans cette ONG-là
nationale.
Nationale qui venait de naître.
Mais on vous payait comme expatrié.
On m'a payé comme expatrié parce que c'est l'IACER qui est venu me solliciter en me disant que voilà, il y a une ONG nationale qui vient de naître. Nous voulons leur confier des activités médicales, mais comme toi tu as de l'expérience, veux-tu aller avec eux? Je dis oui, à condition que vous puissiez garder mon statut d'expatrié. Et on l'a fait.
C'est ce qui a été fait.
Et oui.
Entre-temps, votre famille était toujours à Kinshasa.
À Kinshasa. Comme je suis allé dans cette ONG nationale, eux ne pouvaient pas me défendre de faire venir ma famille. Ma famille est venue me rejoindre. Et là, je fais 2 ans avec des amis. On a eu quelques petites difficultés de gestion et nous nous sommes séparés. J'ai créé moi-même en 1997 ma propre formation, mon ONG, qui s'appelle Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, dont je suis le fondateur et le directeur général jusqu'à aujourd'hui.
Alors, avant de parler de votre ONG, Dr. Freddy Mbakata, on va prendre quelqu'un qui nous a parlé de vous. On va le suivre. On se retrouve juste après.
Je suis curieux de savoir.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs des radios Kapi qui nous suivent en ce moment?
Oui, je suis le docteur Kapika Augustin, c'est mon nom. Je suis le chef de projet de l'ONG à l'Association pour le développement et le développement social et la sauvegarde de l'environnement, l'ADES en sigle. Je suis donc le chef de projet et je fais l'office aussi de l'adjoint au directeur général.
Voilà. Docteur Kapika, nous sommes dans ce studio avec le directeur général, le docteur Mbakata, avec qui vous travaillez. Comment vous vous êtes connu?
Oui, on s'est connu à Goma. C'était dans la profession, au fait. Moi, j'étais dans un projet de l'AFAO, projet du gouvernement congolais, financé par l'AFAO, par le Canada. C'était à Goma. Et lui, en ce moment, il était à l'EIB. Hein. Il avait commencé d'abord dans une ONG américaine, et puis ensuite, il était à l'EIB. Et c'est là-bas qu'on s'était connus. Mais je le voyais dans les humanitaires, et moi, j'étais aussi dans les humanitaires, mais beaucoup plus du côté très spécifique du côté FAO. Et voilà, on s'occupait de l'agriculture et de l'élevage.
Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble?
Ça fait pratiquement 14 ans, parce que c'est depuis 2001 qu'on est ensemble, on travaille ensemble. Donc c'est pratiquement, oui, 13 ans, 14 ans.
14 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous le connaissez très bien.
Oui, très très bien, je le connais bien. C'est un monsieur qui, après ses études de médecine, il a pratiqué la médecine à l'hôpital général de Kinshasa, à Mamayemo. Et après, il est parti aux États-Unis faire sa maîtrise en santé publique. Et quand il est revenu depuis lors, il est dans les humanitaires. Et je l'ai connu dans les humanitaires. Et aujourd'hui, c'est lui mon chef direct. Nous travaillons ensemble. Mais je vous jure que notre ONG, donc l'ADES, est compté parmi les meilleures ONG nationales. Et quand vous voyez même la façon dont nous menons ça, par son savoir-faire, c'est un peu comme si c'était une ONG, je me suis beaucoup internationale ou de blanc. Mm-hmm. Ou c'était un blanc qui était en tête de l'ONG. Donc c'est dans le travail, la rigueur et vraiment la justice, la transparence. C'est vraiment formidable. C'est un monsieur bien.
Vous avez déjà commencé à vanter ses qualités sur les plans professionnels. Comment il se comporte avec ses collaborateurs?
Non, c'est vraiment un démocrate, c'est dans la transparence. Et chez lui, c'est d'abord le travail, hein. Vraiment, c'est le travail avant toute chose. Que vous soyez, vous êtes son collaborateur, que vous soyez, je ne sais pas moi, dans quelle position de relation avec lui ou comment, ça ne compte pas. Chez lui, c'est le travail. Et ce monsieur, c'est ça la clé de la réussite, au fait, pour lui. Parce que lui, si vous ne travaillez pas bien, en tout cas, vous n'êtes pas ami, vous n'êtes pas frère. Et frère, pour lui, celui qui travaille très bien et est ami à lui, celui aussi qui travaille très bien. C'est ça vraiment la qualité, l'une des qualités importantes.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas en lui?
Ouf, c'est très difficile. Dans 13 ans, 14 ans, mon Dieu, j'ai dit ce que je n'aime pas.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change?
Ouf, Bon, vous savez, quand vous êtes relié d'abord et par des relations personnelles et ensuite des relations professionnelles, il y a, sur le plan professionnel, je dirais vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que je peux reprocher parce que il laisse la liberté à tout le monde de faire son travail. Et celui qui, depuis que nous avons commencé, qui quitte notre organisation, c'est beaucoup plus celui qui, de lui-même, il a défailli et il sent qu'il doit quitter, il n'est plus membre et il quitte. Mais sinon, en tout cas, il donne l'occasion à tout le monde de bien travailler. Il est avec tout le monde, il vous donne des moyens de travail, et il ne s'ingère pas dans le travail de chacun. Et celui, chacun dans son travail, s'il amène un rapport, il analyse, il approuve, voilà, et ça avance très bien. Mais il est très rigoureux dans même la façon de rédiger. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai vu en lui. Dans la rédaction, il est très fort et il n'aime pas de fautes. C'est des fautes de français ou de fautes de formulation. Et quand il y a un rapport qu'il lit, il ne voit pas seulement la partie technique, il voit tout. Il est très méticulé.
Alors, docteur Kafika, avant de vous libérer, c'est la coutume ou l'habitude dans cette émission. On va vous demander de lui dédier une chanson. Laquelle vous préférez?
Oh! Bon, lui, c'est un enfant de Dieu, hein, tout comme moi-même. Mais je sais qu'il aime beaucoup les chansons de Laure Mbongo et la musicienne chrétienne. Mais sinon, comme il est de la vieille classe, évidemment, une chanson comme celle de Sabouley, Congo, Congo Mboka, vous n'aimez pas là des trucs comme ça. Il dit Congo Mboka.
Oui, je vois la chanson.
Congo, Bozo, c'est qu'à le lot demain, Congo, ça sera un grand pays. Voilà, ça, je peux encore rajouter.
Merci beaucoup, docteur Kafika. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
Merci, madame.
Bonne journée.
Bonne fête à vous. Au revoir.
Alors, docteur Freddy Mbakata, ça vous fait quoi d'entendre ce genre de témoignages sur vous?
Madame, je suis très, très, très touchée parce que vous m'avez piégé. Vous m'avez mis en contact avec l'une des rares personnes qui me connaissent vraiment beaucoup. Comme il vous l'a dit, pendant 14 ans, on travaille ensemble et je passe avec lui beaucoup plus de temps qu'avec ma propre femme à la maison parce que nous venons le matin, nous travaillons ensemble. Les soirs, on se consulte, même au téléphone. Nous recevons des amis au restaurant pour manger, pour parler, travailler, tout et tout. C'est vraiment mon coéquipier, si vous voulez, très bien. Là.
Vous êtes rigoureux dans le travail.
Il a si bien dit. Madame, vous savez, nous sommes comme une ONG qui joue dans la Ligue supérieure. Et qui sont nos concurrents sur le terrain? Ce sont des ONG internationales. Nous disputons du bon côté, donc si je peux dire ainsi, ce n'est pas des disputes au vrai sens du mot. Le marché avec la GTZ, qui est une coopération allemande. Avec COPI, qui est une coopération italienne. Avec l'Oxfam Québec, avec l'Oxfam Grande-Bretagne, avec MSF. Vous voyez, ce sont des ONG internationales qui ont une très grande expérience, qui ont leurs propres moyens. Et peut-être aussi parmi les décideurs, les gens qui sont dans des organisations du système des Nations Unies, ce sont leurs connaissances ou leurs frères de pays ou quoi. Qu'est-ce que nous avons à offrir devant des grandes ONG pareilles? Sinon que nous comptons sur notre Dieu parce que nous sommes très chrétiens. En second lieu, l'expérience qui doit parler, qui doit convaincre. C'est pourquoi je suis très, 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 très rigoureux. Nous devons nous imposer par la qualité de notre travail. Nous n'avons aucun frère à nous soutenir. Nous n'avons pas de fonds propres. Nous n'avons pas d'amis dans le cercle des décideurs. Alors que les autres peuvent être soutenus par leur pays.
Mais vous avez des partenaires.
Nous avons des partenaires. Nous avons pu nous imposer en 18 ans d'existence. Alors qu'au début, nous cherchions des projets. Aujourd'hui, ce sont de ces partenaires qui ont confiance en nous, qui nous appellent. Pour vous donner un dernier exemple, il y a juste une semaine, nous avons été surpris d'obtenir un email de l'ambassade américaine pour dire Hadès, on nous a parlé de vous, nous voulons faire telle intervention en faveur des réfugiés à l'Équateur, venez, vous allez réaliser tel projet avec nous. On est parti avec mon collègue Dr Kafika, on a discuté et nous allons réaliser ce projet. Donc voilà, nous avons bâti la confiance et la crédibilité, c'est tout de l'ONG.
Grâce à cette rigueur. Quand on est sérieux dans son travail,
voilà, exactement.
Vous avez la confiance du partenaire.
Et notre plus grande richesse au niveau de l'ONG, ce n'est pas l'argent. Notre plus grandes richesses, cette crédibilité-là, et la qualité et le professionnalisme de nos agents. Dr Kapik est avec moi depuis 14 ans, mais j'ai des travailleurs, des cadres qui ont commencé avec moi en 1997, depuis la naissance de cette ONG jusqu'à aujourd'hui.
20 ans déjà.
Qui sont toujours là, qui travaillent avec moi.
Docteur Freddy Makata, on va souffler un peu.
D'accord, merci.
Avec cette chanson de Taboulay Congo.
Vraiment, il connaît même mes goûts. Merci, madame.
Pour votre plaisir et pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiookapi.net, on écoute la chanson Jean-Noël et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Congo, Congo de Mboka, Mboka ngomo kengeli koi, Mboka ngomo kengeli leopa. Mikolo to sekara kina mosolo ya Mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyo soso sali. Oya kobongi sa Congo aveni, ebongi to sala, ebongi to sala. Moto nyoso ata mwana, Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Congo ya bwanya, kasa ya mbila. Congo ya makasi, moto ya nkoi. Kalakina mosolo ya mboka Congo ekoki tokumwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali
oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana
Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi.
Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboka lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo. Kaya kitoko Congo ya batu mayele Congo mbakobikisa yo
Thank you. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Le grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dr Freddy Mbakata Mputu. Il est fondateur et directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADSSE en sigle. C'est une ONG de droit congolais qui a été créée le 17 mai 1997.
Exactement, madame Oya Bukavu.
Alors racontez-nous la petite histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre ONG? Parce qu'avant, vous avez travaillé dans d'abord une ONG américaine et puis vous avez travaillé dans une autre ONG nationale qui collaborait avec le HCR.
Oui.
Et puis finalement, vous avez décidé de créer votre propre ONG.
J'ai saisi l'opportunité, si vous voulez bien. Parce que vous savez, avec ce qui a eu comme cette grande crise humanitaire, avec l'arrivée de beaucoup de réfugiés, on a connu une période d'extrême urgence où il fallait s'attaquer à des grandes endémies, à des maladies et de tout, de tout. Donc il y a plusieurs ONG internationales de travers le monde qui étaient arrivées là-bas. Parce que c'était la première grande crise humanitaire que le monde connaissait. C'est que nous avons vécu là en 94 à l'est du pays. Bon, quand la phase de l'urgence était passée, il y a une phase qu'on appelle care and maintenance, c'est-à-dire une phase de stabilité de tout ce qu'on a créé. Ces grandes ONG internationales sont rentrées chez eux dans leur pays. Et pour maintenir ce qu'ils avaient fait, il fallait qu'il y ait des ONG nationales pour prendre la relève. Il n'en avait pas beaucoup, il en avait quelques-unes. Alors, le responsable du Haut Commissariat des Nations Unies, qui était dans ce côté-là, ont appelé certains Congolais qu'ils croyaient être capables de diriger des ONG, et ils nous ont incités de créer nos propres structures pour remplacer les ONG qui sont parties. C'est comme ça que je serai contacté par le responsable d'IACER à Bukavu pour me dire que si je pouvais créer une nouvelle structure pour remplacer les grandes ONG qui sont parties. C'est comme ça que j'ai eu le financement avant même d'avoir mes statuts propres, avant même d'avoir un personnel, parce qu'on me connaissait. On m'a dit, prépare un projet dans tel domaine, nous allons te financer.
Et
le HCR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bukavu. C'est ce que j'ai
fait.
Mais
vous étiez à Goma, non?
J'ai travaillé à Goma, mais l'EIB, la dernière ONG avec laquelle j'ai travaillé, a pris de l'ampleur. Elle s'est retrouvée à Bukavu, à Goma, à Kisangani et à Uvira. Et moi, je devrais contrôler à l'époque Bukavu et Uvira. Donc c'est à partir de là, quand j'ai saisi cette opportunité en 1997, aussi avec l'avancée de l'AFDEL, plusieurs ONG ont fui parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait plus de la sécurité. Donc je devrais faire quelque chose. J'ai créé cette ONG avec des amis. Voilà, c'est comme ça. Et depuis lors, c'est un non-stop. Nous avons toujours été financés, non seulement par le HCR, mais par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, par l'UNICEF, par la Banque Mondiale.
Mais quels sont vos domaines d'intervention, docteur?
Nous avons deux grands domaines d'intervention. Nous avons le domaine des urgences comme tel, et nous avons le second domaine, c'est le domaine de développement durable. Dans le domaine des urgences, notre plus grande spécialité, c'est la gestion des camps multisectoriels, des camps de réfugiés. C'est-à-dire, nous sommes dans aujourd'hui, comme mon collègue Kapika vous l'a dit, parmi les ONG congolaises qui se trouvent dans les pipelines d'IACER. Chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, qu'il y a des réfugiés quelque part, nous sommes contactés. On nous propose, est-ce que vous pouvez aller là-bas faire des évaluations et nous proposer des projets. C'est comme ça que nous, dans chaque grand camp de réfugiés, ici au Congo, nous avons été contactés et nous nous retrouvons. Nous sommes dans le domaine du social. Nous construisons les abris de réfugiés. Nous créons des puits d'eau potable. Nous faisons les AGR, les activités génératrices de revenus. Nous assistons les personnes à besoins spécifiques, les handicapés, les sourds muets, les enfants non accompagnés, les enfants chefs de famille. Donc il y a tout un tas d'activités. que nous faisons, y compris aussi l'environnement, bien entendu, qui est notre domaine de prédilection et qui se retrouve même dans notre définition de l'ONG.
Et dans l'environnement, vous faites quoi? Vous protégez l'environnement?
Oui.
Contre les pollutions?
Bon, nous avons voulu, nous avons vu à la naissance de l'ONG que les grandes ONG qui venaient, ils le faisaient de l'humanitaire, ils nous aidaient, mais ils détruisaient complètement l'environnement. Et quand ils rentraient, ils repartaient, ils ne réparaient pas l'environnement. Nous nous sommes dit, nous sommes des natifs de ce pays.
Donc ils détruisaient comment l'environnement?
Bon, vous voyez, madame, s'ils doivent arriver quelque part, on doit créer un camp de réfugiés. S'il y a une forêt, on abat la forêt, on construit des cases. Si c'est une savane, on défrise la savane. On creuse des trous à ordures, on creuse des toilettes. Et ils jettent tout un tas de matériel. Mais quand ils partent, ils ne nettoient pas cet espace, parce que c'est un espace qui était utilisé par les autochtones pour des champs ou autre chose. Et ils ne nettoient pas, ils partent, ils sont partis, ils laissent l'endroit comme tel. Nous nous sommes dit, comme nous sommes des natifs de ce pays, nous devons faire l'humanitaire autrement. Après les activités, les sites que nous avons utilisés doivent être nettoyés. Toutes ces toilettes, tous ces trous à ordures doivent être fermés pour protéger la population. Nous devons reboiser. Nous produisons des plantules de différents essences dans des pépinières. Et quand ces plantules arrivent à maturité, nous les repiquons dans ces espaces.
Et donc, quand vous fermez un camp de réfugiés, vous plantez...
Nous nettoyons, nous plantons, nous les remettons à l'état initial où il était avant que le camp de réfugiés vienne s'installer là-bas.
Une petite question des curiosités. Est-ce que vous avez assisté aussi tous ces Congolais expulsés des Brazzaville?
Pas directement ici à Kinshasa. Parce que vous savez, ici à Kinshasa, tout était canalisé par les ministères des Affaires humanitaires, les ministères des Affaires sociales.
Vous ne collaborez pas avec le gouvernement?
Nous avons des relations, tous les documents que nous avons, c'est le gouvernement qui nous les donne. Quand nous travaillons dans des camps de réfugiés à l'intérieur, nous avons de très bonnes relations avec les autorités politico-administratives. Mais ici, on ne nous a pas choisis parce que nous n'avons pas de moyens propres qui pouvaient faire que nous puissions aller avec nos moyens installer un programme là-bas. Mais indirectement, nous sommes en train de le faire. À l'Équateur, par exemple, nous sommes en Bandaka, nous sommes à Guadolite, nous sommes à Libengue, Zongo, Dongo, Imese, un peu partout là-bas. Les réfugiés, par exemple, les refoulés de Brazzaville, originaires de la province de l'Équateur, qui sont arrivés ici, qui sont rentrés dans leur province, ceux qui sont, par exemple, autour de Bandaka, nous sommes en train de les identifier et on est en négociation avec certains partenaires pour une intervention en leur faveur. Donc ici, à Kinshasa, nous n'avons pas pu intervenir directement, mais dans l'arrière-pays, notamment en Bandaka et ses environs, nous sommes en train de préparer un projet de prise en charge pour eux.
Est-ce que vous avez des antennes dans toutes les provinces ou bien c'est dans les provinces où il y a eu des problèmes?
Pas dans toutes les provinces, mais actuellement nous sommes dans 5 provinces. Nous nous retrouvons dans la province de Sud Kivu, notamment à Bukavu, où pendant très longtemps nous avons participé avec les HCR et les autorités locale pour le rapatriement de réfugiés rwandais et burundais qui étaient encore dans nos forêts. Dans la province de Nord Kivu, nous nous retrouvons, où nous avons conçu grâce au fonds d'IACER de maisons pour la réconciliation des populations. Nous nous retrouvons actuellement dans la province orientale, notamment à Bunia, à Dungu, à Mambasa et à Inke. À Inke, nous y un camp de réfugiés centrafricains. À Dungu, Mambasa, là-bas, et Bunia, nous avons des projets de cantines scolaires avec le financement de PAM. Et nous avons aussi des projets de construction des abris pour les déplacés internes à Dungu et à Mambasa. Et nous sommes dans la province de l'Équateur, dans plusieurs sites, comme je venais de le dire. Mm-hmm. Et nous sommes ici dans la ville de Kinshasa, où depuis 5 ans, nous dirigeons un centre d'hébergement et de réinsertion des enfants de la rue dans la commune de Massina avec nos propres fonds.
Alors en 20 ans de travail, 20 ans d'expérience dans l'humanitaire, vous avez rencontré sûrement des difficultés.
Oui, madame, des difficultés, on en a rencontrées. Vous savez, quand vous êtes une jeune ONG, on ne vous fait pas d'abord confiance au départ parce que vous n'avez peut-être pas une expérience de gestion. Quand vous allez négocier un projet quelque part, on vous regarde, on vous donne de petits montants. Mais comme j'ai dit, j'ai appris en travaillant dur, on finit par se convaincre de ce dont vous êtes capable. Il y a eu des difficultés, madame. J'ai dit moi-même abandonner ma famille pendant 6, 7 mois ou 9 mois ou même 10 mois. Je suis à l'intérieur. J'ai traversé, madame, la nuit, partant de Haru, par exemple, la province orientale, à Haru, Dungu. Vous faites 400 kilomètres. Vous partez de Haru pour arriver à Dungu. Et la nuit, vous traversez des ponts, qui n'a de pont que des troncs d'arbres. Vous devez traverser la nuit une rivière de 8 mètres, mais vous faites 40 minutes pour la traverser. Parce que ces troncs d'arbres, l'épineux, vous devez les guider lentement, calmement.
Est-ce que quelquefois, vous n'aviez pas eu envie d'abandonner lorsque vous rencontriez toutes ces difficultés?
Non, madame. Vous savez, le travail humanitaire, il est très, 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 très passionnant. Parce que vous savez, vous sentez, surtout quand vous travaillez avec les réfugiés ou les déplacés internes, que vous êtes en train de rendre réellement un service. Vous voyez des enfants, de veuves, de personnes de troisième âge qui sont en train de fuir une guerre, qui se déplacent en interne, qui ne comprennent pas le pourquoi et qui ont tout abandonné. Ils ont tout perdu. Un moindre bidon que vous leur donnez dans lequel ils peuvent mettre de l'eau, c'est un cadeau précieux pour eux. Et parfois, vous les aidez avec des larmes aux yeux, madame. Quand vous recevez des réfugiés, nous tous, nous sommes des potentiels réfugiés. J'ai vu, madame, à Zongo, en 2001, des réfugiés centrafricains venir à Zongo. Zongo, c'est à quelques mètres de Bangui. Des gens qui étaient ambassadeurs là-bas, des gens qui étaient ministres là-bas, ils se sont retrouvés du jour au lendemain réfugiés à Zongo. Ils n'avaient plus rien, sauf peut-être les habits qu'ils avaient sur le corps. Ils devraient attendre tout de vous. Et quand vous faites ça, vous sentez que vous êtes réellement en train d'aider des gens qui ont perdu confiance à qui que ce soit, sinon qu'en Dieu. Et que si Dieu vous utilise pour être l'instrument pour venir en aide à ces personnes, vous avez une très grande satisfaction, madame. Très, très grande satisfaction.
Vous êtes satisfait du travail que vous faites?
Plus que satisfait. Je ne vois pas ce que je peux faire. Même quand j'étais à la primature, conseiller principal du Premier ministre, d'un grand collège où j'avais à ma disposition 8 conseillers.
Vous avez travaillé avec le Premier ministre Gizenga
et Mouzito. Oui. Et madame, je n'avais pas rempli avec mon ONG. J'avais le docteur Kapika, que vous venez d'interviewer tout à l'heure, lui faisait mon intérim. Mais j'étais tout en contact. C'était une passion. Même ma propre femme est entrée dans le jeu aujourd'hui. C'est elle qui dirige l'orphelinat de Massina là-bas. Aujourd'hui, nous vous parlons.
Mais est-ce qu'à un moment, ça ne vous a pas créé des problèmes avec votre famille? Vos enfants ne se sentent pas plaints? Tout le temps parti.
J'en arrive. Et aujourd'hui, nous sommes restés à la maison, mon épouse et moi. Ma femme, ses enfants, ce sont ses orphelins. Tout le temps, il est parti. Et quand vous voyez comment ces 30 enfants viennent l'accueillir, vous avez des larmes aux yeux, vous sentez que vous rendez service. Les difficultés, j'en ai. Ma deuxième fille qui est aux États-Unis, quand je partais, 6 mois, 8 mois, quand je revenais à Kampala, famille, ma femme venait m'embrasser avec les autres enfants. Elle lavait les mains derrière. Daddy, when are you going again? Donc, papa, quand est-ce que tu vas encore repartir? Et il s'est retourné vers sa maman. Maman, tu es bête. Tu l'embrasses alors qu'il t'abandonne tout le temps. Mais aujourd'hui, elle a compris. Quand elle a fini sa licence à Kampala, elle est venue travailler pendant 2 ans avec moi ici à Kinshasa, à la direction générale de l'ADES, et elle est partie faire sa maîtrise. C'est chaque jour qu'elle me félicite et dit, papa, vous êtes formidable. Je ne parle que de ce que j'ai vu. Et quand je parle, même mes professeurs me considèrent. Ils n'ont jamais entendu des gens qui souffrent comme tels, comment nous les aidons. Et vous êtes, papa, vraiment quelqu'un de formidable. Et quand j'entends ça de ma fille, je me dis, quelque part, j'ai réussi. Ce n'est pas pour rien que j'ai souffert.
Alors, vous avez vécu à Kampala?
Oui, j'ai vécu à Kampala. Moment. Oui, exactement.
C'était toujours dans les cadres de l'ONG?
Oui, à l'époque, vous savez, à l'époque, les pays étaient divisés ici chez nous. Nous avons des activités à Bukavu, nous avions des activités à Haru, nous avions des activités en province orientale. Et Bukavu, c'était la partie tenue par le RCD. Aru, c'était la partie tenue par RCD, KLM, je crois. Mbandaka, c'était le MLC. Moi, je devais partir d'un peu partout pour suivre mes activités. Je me suis dit, si je reste à Goma ou à Bukavu, j'aurai des problèmes. J'ai installé ma famille dans un premier temps au Burundi, où nous avions des activités, et quand l'insécurité aussi était très élevée à Bujumbura, j'ai installé ma famille à Kampala. Donc pour partir de Bukavu, je sortais de Bukavu, j'allais à Nairobi, je revenais à Kampala. À Nairobi, j'ai changé toutes les identités, et quand je venais à Kinshasa, c'est comme si je venais de Nairobi. Pour aller à Aru, je partais à partir de Kampala. Pour aller à province orientale, à Zongo, je venais d'ici à Kinshasa.
C'était dur, hein, quand même.
Très dur. Quand j'arrivais à l'aéroport, on m'arrêtait. Pendant 2 heures et 3 heures, tu viens dans des zones occupées par des rebelles. Tu es un rebelle, qu'est-ce que tu viens faire? On me fouillait. Et puis, finalement, on me relâchait. Et je faisais des va-et-vient comme tel. C'était très, très, très dur, madame. Mais il fallait le faire.
Alors aujourd'hui, docteur Freddy Mbakata Mputu, est-ce que vous préparez la relève?
Très, très, très bien, madame. Le docteur Kapeka vous a dit que je suis un démocrate par la façon de travailler. Nous avons des antennes un peu partout. En Mbandaka, par exemple, il y a un chef de bureau qui a beaucoup d'autres coordinateurs, un comptable, des coordinateurs de ceci et de cela. Ils travaillent d'une façon autonome. Ils reçoivent le fonds qu'ils gèrent eux-mêmes là-bas. À Bukavu, à Bunia, un peu partout, mêmement. Moi, on me rend des comptes, et je vois, je donne des grandes directives. Je ne suis pas là chaque jour pour commander. Nous travaillons d'une façon décentralisée. Donc, je peux dire aujourd'hui, je peux ou ne pas être là, j'ai laissé les structures telles que la DES peut toujours continuer. Bien sûr, au niveau de la fondation, je prépare aussi des amis, je prépare aussi mes propres enfants. Je prépare ma relève, c'est bien fait. Tout ce que mes enfants font aux États-Unis, vous avez senti Business Administration, la fille qui a travaillé avec moi, Leadership Management, donc comment être un leader pour diriger, donc je me prépare.
Alors à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, est-ce que vous les encouragez?
Je les encourage, madame, parce que nous devons aussi arriver à créer des très grandes ONG internationales. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce sont des cas extrêmement rares qu'on ne trouve pas partout. Le Congo est le seul pays où on trouve à la fois un grand nombre de réfugiés d'autres venus d'autres pays, un grand nombre aussi de réfugiés congolais qui sont dans d'autres pays, et un grand nombre de déplacés internes. Ce sont des opportunités qu'on n'a pas n'importe où. Donc tous ceux qui veulent venir dans le domaine humanitaire, qu'ils arrivent. Mais il faut être patient. Il faut faire montre d'une très bonne gestion. Parce que les organismes du système des Nations Unies, tels que le ACR, le PNUD, le PAM, ce sont des organismes très, très, très rigoureux. Pour qu'ils vous donnent leur argent, leurs millions, ils doivent savoir que vous allez très, très, très bien les gérer. Et partout où vous êtes en forêt, que ce soit à Inke, que ce soit à Libenga, à Zongo, à Guadeloupe, eux-mêmes sont là avec leur propre bureau. Ils vous suivent à la loupe. Vous voyez des blocs qui sont venir de la France, de
l'Italie. Il faut mettre du sérieux dans ce
qu'on
fait.
Du sérieux, du sérieux.
Pas de la rigueur.
Pas de l'aventurisme. Vous ne venez pas là pour prendre l'argent et pour faire vos bénéfices. Travaillez d'abord et ça finira toujours par payer si vous mettez du sérieux. Voilà le conseil que je peux donner.
Merci, docteur. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent que je recevais le docteur Freddy Mbakata Mputu, qui est fondateur et directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADSSE en sigle, 20 ans dans le domaine de l'humanitaire. C'est pas peu. Félicitations, docteur. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son au micro qu'elle écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Merci, madame. Merci à Radio Okapi.